À CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux. C'est reparti.
De la belle visite aujourd'hui à deux, c'est mieux. Luc Langevin, salut.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Merci à toi d'être là. La tournée Vérité est officiellement commencée depuis déjà quelques semaines. Comment ça se passe?
Super bien. Au-delà de mes attentes, en fait, le spectacle est super bien reçu. Les critiques, c'est les meilleures que j'ai eues jusqu'à maintenant. Puis les billets se vendent. On est souvent à guichet fermé. Ce que je redoutais, en fait, en ère post-pandémique, mais finalement, les gens sont au rendez-vous, donc je suis comblé.
Évidemment, c'est toute une logistique, monter un show de magie. Tu fais ça. Ça commence quand? La construction d'un show de magie, ça commence avec les idées d'abord, j'imagine?
Oui. Ben ça me prend à peu près 2 ans de monter un spectacle à chaque fois. Il y a une première année qui est, oui, c'est ça, c'est les idées. Donc, c'est tout se passe dans ma tête ou sur papier. Donc, c'est la conception, c'est les flashs, puis des réunions parfois de conception avec d'autres magiciens que j'engage pour m'aider. Puis la deuxième année, là, on est plus dans le concret. On engage toute l'équipe, c'est-à-dire le metteur en scène, le musicien qui va faire la musique sur les numéros, tout ça. Puis, on commence du travail plus concret. On construit des prototypes pour tester des illusions. On fait faire des soumissions, on fait fabriquer des affaires aux quatre coins de la planète. Puis, dans le dernier mois, là, on a un gros rush où on a tous nos accessoires. On loue un théâtre pendant un mois. Puis là, on construit vraiment concrètement le spectacle. On enchaîne les numéros. Puis, c'est la naissance du spectacle, proprement dit.
Et tous les départements sont importants, j'ai l'impression, parce que la mise en scène, autant que la musique, que l'éclairage, tout joue un rôle dans un show comme celui-là, j'imagine.
Oui, une bonne illusion, c'est vraiment une chorégraphie entre tous ces domaines-là. Parfois, on a besoin d'une musique ou d'un son pour couvrir un bruit, pour que l'illusion fonctionne, ou l'éclairage, parfois, va dissimuler quelque chose ou va mettre en valeur quelque chose pour que les gens regardent là pendant qu'ils ne regardent pas ailleurs. Parfois, j'ai des techniciens aussi qui vont me donner un coup de main dans l'ombre. Donc, c'est toute une chorégraphie entre tous ces domaines-là qui font que le numéro fonctionne ou pas. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup de répétition puis une bonne équipe et tout ça, là.
Il y a un numéro dans ce show-là, on en a parlé, tu en as parlé, tout le monde en parle aussi, qui a coûté très cher.
Oui, ça fait
évidemment,
beaucoup jaser, ça.
Tant qu'on n'arrivait pas au spectacle, tu savais pas ce que ça allait avoir. Évidemment, tu le savais parce que en le faisant, tu voyais bien l'impact sur l'équipe, mais c'est pas pareil comme en show.
Non, c'est...
Est-ce que l'investissement valait la peine?
Maintenant, je peux dire que oui, mais ça a été un gros stress jusqu'à la première fois qu'on a présenté le spectacle devant une foule. Le stress de ne pas savoir si on a dépensé tout cet argent-là puis toute cette énergie-là pour un numéro qui... une illusion qui peut ne pas fonctionner, finalement, ou ne pas être à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Puis finalement, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on s'entendait. Les gens se lèvent tout de suite pour applaudir. Ils savent que c'est la fin quand ça arrive parce que c'est il n'y a rien qui peut venir après ça. Donc, je m'en réjouis. Toute l'équipe, on a retenu notre souffle jusqu'à entendre les premiers applaudissements pour ce numéro-là.
Pendant la pandémie, pendant le confinement, en fait, tu as fait un spectacle virtuel qui s'appelle Interconnecté. Est-ce que Vérité est un peu inspiré d'Interconnecté? Est-ce qu'il y a des thématiques ou en tout cas des façons de faire que tu as pris pour ce show-là, que tu as regardé?
Pas vraiment. En fait, ce qui est drôle, c'est que avant la pandémie, je commençais déjà à penser à mon prochain spectacle sur scène. Puis quand la pandémie est arrivée, bien, il y a beaucoup des idées que j'avais eues que j'ai mis dans Interconnecté, finalement, mon show virtuel. Donc, pour le show Vérité, j'ai comme vraiment dû comme me revirer de bord, finalement, pour construire quelque chose pendant la pandémie. Donc, non, c'est pas tellement... oui et non, en fait. Il y a un numéro qui a bien marché dans mon spectacle virtuel, qui est un numéro où je donnais l'illusion d'envoyer quelque chose chez une personne. Puis le numéro avait tellement un grand impact que je me suis dit, dans le show Vérité, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, il y a un numéro dans le show où on appelle quelqu'un en FaceTime. Je demande à quelqu'un dans la salle là, d'appeler une de ses connaissances en FaceTime. On projette ça sur écran géant. Et là, il y a un objet où il se passe quelque chose chez cette personne-là, même si elle n'est pas physiquement avec nous. C'est un autre numéro qui fonctionne très bien puis qui est inspiré un peu de la pandémie.
J'imagine qu'aussi, un des défis, c'est de s'assurer que ça peut marcher dans toutes les salles où on va aller. Là, j'ai vu qu'il y avait un spectacle qui avait été annulé pour des raisons techniques. Je ne sais pas si ça a un lien, mais...
Bien, je l'ai appris en même temps que toi, probablement. J'étais encore en train de savoir pourquoi ça a été annulé, mais oui. Mais oui, parfois, on ne peut pas rentrer dans toutes les salles. Ça nous pose beaucoup de problèmes en France, notamment, parce que les salles sont souvent plus vieilles et plus petites. Puis quand on fait de la magie à grand déploiement, Donc, souvent, il y a des gros objets qui apparaissent. Ils ont des affaires qui, parfois, passent même pas dans la porte pour rentrer au théâtre. Donc, des fois, on a la place sur scène, mais on n'a pas les accès. On n'est pas capable de rentrer. Il faudrait défaire un mur. Donc, Copperfield le fait des fois, ça. Il défait un mur, puis il le reconstruit après. Mais moi, j'ai pas ce budget-là pour mettre à terre des murs dans tous les théâtres du Québec. Donc, parfois, il y a certains théâtres où on ne peut pas aller. Mais on rentre quand même dans la majorité des salles ici au Québec.
Mais de louer un théâtre un mois pour préparer un show, c'est quand même un investissement que peu d'artistes dans tout art confondu ont à faire. Là. En fait, il n'y a que vous autres, j'ai l'impression.
J'ai l'impression. Peut-être les comédies musicales, peut-être, des fois produites par Juste pour rire. Mais un mois de temps, non, c'est peut-être la raison pour laquelle on voit peu d'illusionnistes. T'sais, on a beaucoup d'humoristes au Québec, on a beaucoup de groupes de musique aussi dans nos salles. Des magiciens, il y en a peu, mais c'est parce que ça prend... Il y a un gros risque financier toujours à créer un spectacle comme ça. Faut un mois, louer un théâtre un mois sans vendre de billets, c'est beaucoup de coûts. Mais c'est ce que ça prend pour émerveiller les gens. Puis l'avantage peut-être qu'on a par rapport à d'autres shows, comme les shows d'humour, c'est que moi, après, je m'exporte assez bien. La magie, c'est universel. Donc, le mois qu'on passe dans un théâtre, ben, ce qu'on construit, là, après, il fonctionne en France aussi, puis ailleurs dans la francophonie.
Mais en même temps, on veut voyager... pas trop lourd, j'imagine. Ouais. Parce que là, si tu vas en France, plus il y a de matériel, plus il y a d'équipement, plus ça prend de monde, plus il y a de coûts.
Effectivement. D'ailleurs, c'est ça. Quand j'ai conçu ce spectacle-là, je voulais qu'il puisse rentrer dans un cargo aérien. Donc, parce que habituellement, on traverse l'Atlantique par bateau. Donc, ça prend un mois à se rendre en Europe. Donc, on perd un mois de spectacle.
Tu peux pas faire un mois de show ici, puis non, tu peux pas faire un mois de show
exactement.
Là-bas.
Exactement. Ouais. Puis, quand on revient, c'est la même chose. Donc, c'est encore là, c'est problématique. Donc, je voulais rentrer dans un avion. Donc, on a construit le spectacle pour être hyper léger. Donc, au lieu d'être des grandes boîtes là, qui font apparaître des affaires, c'est plus des tissus. On utilise beaucoup la projection vidéo et l'éclairage. Donc, tu sais, les projecteurs vidéo, l'éclairage, c'est de l'équipement qu'on peut retrouver là-bas, qu'on n'a pas besoin de traîner avec nous. Donc, c'est la technique que j'ai prise un peu en concevant le spectacle, en créant une mise en scène beaucoup basée sur la projection vidéo, puis la lumière, puis des accessoires légers, des tissus, pour que tout ça soit plus compact. Mais malgré tout, le prix de l'essence a tellement augmenté pendant la pandémie, ça coûte quand même cher, ça, en Europe. Okay,
bon. J'imagine qu'il y a des gens sur l'équipe qui voient des choses que nous, on ne voit pas, assurément, les gens de l'équipe technique.
Oui.
J'imagine qu'il y a des ententes de signer pour pas qu'ils parlent.
Oui, ça commence même un an avant qu'ils commencent à travailler sur le spectacle. Tous ces gens-là signent des ententes de confidentialité. Parce que c'est sûr qu'ils voient, ils voient tout. Là. Puis même s'ils voyaient pas tout, comme ils font le spectacle soir après soir, ils ont la chance de...
Oui, d'analyser en masse.
C'est quelque chose qu'ils comprenaient pas, ils ont bien des chances pour finir par le trouver. Là. Donc oui, c'est sûr, toute l'équipe, c'est toujours la procédure qu'on a là, de faire signer des ententes de confidentialité pour tout le monde. Eux, ils rentrent dans un monde. C'est drôle parce qu'avec la pandémie, j'ai perdu beaucoup de mes anciens techniciens, donc il a fallu que j'en engage de nouveau. Puis de voir leur réaction au début, quand je leur dis ben dans le show, on va faire ça. Puis ils disent mon Dieu, comment on va faire ça? Puis il faut que je leur dise ben voici comment on va le faire. Puis la face qu'ils font. Au début, ils ne croient même pas, en fait. Ils disent non, ça se peut pas, c'est impossible. Ils ont la même réaction que n'importe qui, en fait. Puis après ça, c'est drôle. Après une couple de mois, c'est naturel. On fait ça, on fait apparaître ça, on téléporte ça. Ça devient une autre journée au bureau.
Est-ce que c'est difficile de trouver un metteur en scène? Parce qu'évidemment, tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup de spectacles de magie ici. Donc, quelqu'un qui est capable de mettre ça en scène, évidemment, il peut apprendre, mais il n'y en a pas une tonne qui peuvent le faire, j'imagine.
De trouver des bons metteurs en magie, mettons, disons, comme ça. Effectivement, il n'y en a presque pas. Par le passé, c'est ça, j'ai beaucoup fait affaire avec des metteurs en scène pour qui c'était la première fois qu'ils mettaient en scène un show de magie. Il y a quand même un apprentissage qui se fait là. Sur ce show-là, on est avec un gars qui s'appelle Hugo Bélanger, avec qui j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil en Chine. Donc, et moi, je concevais des illusions pour le spectacle et lui, il les mettait en scène. Donc, j'ai pu voir comment son approche. Puis c'est un metteur en scène qui a beaucoup intégré de magie par le passé. C'est quelqu'un qui a fait des spectacles pour enfants où il intégrait de la magie sans être magicien. Il en intégrait. Donc, il avait déjà une certaine connaissance de base. Puis, c'est que la magie, c'est très contraignant. Souvent, ça peut être frustrant pour les metteurs en scène parce qu'ils peuvent pas éclairer l'illusion comme ils veulent ou ils peuvent pas mettre telle scène avant ou après parce qu'il y a des contraintes techniques. Puis Hugo, il aime travailler avec les contraintes. Comme on utilise les contraintes comme une force plutôt qu'une faiblesse. On se dit, bon, on est pogné avec ça, mais comment on fait pour que ça soit un plus et non un obstacle? Donc, je suis extrêmement content du travail que Hugo a fait, puis j'espère que je vais retravailler avec lui.
Est-ce que pendant le mois de préparation, il y a des numéros qui sont complètement morts ou qui ont viré complètement de côté parce que technicalité, un truc qui marche pas, l'idée était bonne, mais le rendu sur scène, devant le public, ça marche pas?
Ça c'est arrivé, tous mes spectacles précédents, c'est arrivé. À chaque fois, il fallait faire le deuil d'un numéro pour les raisons que tu viens d'évoquer. Là, pour ce spectacle-là, comme encore là, les contraintes post-pandémiques, pénurie de main-d'œuvre, moins d'argent et tout, il fallait pas que ça arrive. Parce que quand on jette un numéro poubelle, comme ça, c'est de l'argent aussi qu'on jette aux poubelles.
Oui, puis il faut en faire un nouveau.
Oui. Donc, on avait pris le pari que là, avec l'expérience qu'on a, on est capable de concevoir des numéros qui vont à peu près tout marcher et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. C'est pas mal ce qui est arrivé. Le spectacle, il est pas mal tel que je l'avais imaginé sur papier avant. Il y a certaines phases de numéros qu'on n'a pas réussi à faire finalement, puis c'est fou parce que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de les faire, c'est qu'on n'a pas le temps dans les journées de montage de les préparer. On a tout le matériel, on l'a testé, on sait que ça fonctionne, mais quand on arrive en salle la journée, tu sais, comme là on est en spectacle à Joliette ce soir, merci, il y a une truite qui vient d'apparaître devant moi. Je parle pas de la serveuse, là, je parle de mon pas, là. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça.
Le montage, tu n'as pas le temps. Il y a des numéros que tu n'as pas le temps.
On n'a pas le temps de monter. On les a dans le camion, ils fonctionnent, mais on n'a pas le temps de les monter. Donc, il y a certaines phases. C'est pas des numéros complets, c'est comme des finales de numéros, des portions de numéros qu'on coupe par manque de temps. Donc, ça, c'est le petit deuil qu'on a dû faire, mais tous les numéros sont là, malgré tout.
Mais comme là, ce soir, tu es à Joliette.
Oui.
L'équipe est déjà là, j'imagine?
Oui, ils sont arrivés à 9-10 heures ce matin. Ils sont en train de monter en ce moment le spectacle. Je vais aller les rejoindre à peu près à 3 heures de l'après-midi. Je vais les rejoindre. Puis de 3 heures à 6 heures à peu près, là, je place les éléments plus magiques avec eux. On focus les éclairages parce que c'est de la chirurgie à l'éclairage. Là. Un éclairage qui arrive à 6 pouces à côté, ça peut détruire complètement l'illusion. Fait que je fais cette dernière portion-là avec eux. De 6 heures à 7 heures, on va manger. Puis habituellement, là, à 8 heures, on est prêt pour le spectacle.
Est-ce qu'il faut que tu montes deux équipes? S'il arrivait que l'éclairagiste est malade ou c'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est possible.
On fait ça en début de tournée. Chaque technicien a ce qu'on appelle un sub. Donc, il forme quelqu'un d'autre qui, justement, s'il y en a un qui tombait malade, qui pognait la COVID, ben là, c'est l'autre qui vient prendre sa place. Puis c'est super compliqué de trouver des remplaçants. Parce que ces gens-là qui travaillent avec moi sont comme. C'est pas des techniciens interchangeables comme ça. Ils ont appris à faire des affaires que personne d'autre fait. C'est comme vraiment une formation en soi. Donc, c'est long. Ça prend plusieurs spectacles avant. En fait, les premiers subs qu'on forme, souvent, ils voient le show en premier, puis mon Dieu, comment je vais faire pour faire de quoi là-dedans. Après ça, on leur montre le show de derrière. Là, ils capotent encore plus. Puis, mais après une couple de spectacles, à un moment donné, ils commencent à être capables de faire quelque chose, puis on y arrive.
On parle de vérité, ton spectacle. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les numéros? Évidemment, tu ne peux pas tout nous dévoiler, mais qu'est-ce que tu peux nous dire pour inciter les gens à aller voir le show? Qu'est-ce qu'on retrouve? Tu as parlé de celui sur FaceTime. Oui. Je sais qu'il y en a un dans le hall du théâtre.
Oui, il y a un numéro où la magie se produit dans le hall du théâtre, littéralement. Mais les gens voient ce qui se passe malgré tout. Ça, je suis assez fier de ce numéro-là. Je fais plus de grandes illusions. En fait, je me suis dit, après la pandémie, les gens qui se déplacent en théâtre vont avoir le goût de voir des numéros de scène. Donc, il n'y a pas de tour de cartes, il n'y a pas de tour de micro-magie. C'est que de la grande illusion, comme on pourrait dire que David Copperfield faisait dans le temps. Quoi d'autre? Ça s'appelle Vérité. Donc, il y a un numéro plus humoristique, par exemple, où je fais monter un couple et on branche généralement l'homme du couple sur un polygraphe, un détecteur de mensonges. Et là, je m'amuse à lui poser des questions. Ça finit avec un punch de magie, mais on rit quand même pas mal tout le long du numéro. Du malaise qui s'installe après certaines questions. Quoi d'autre? Il y a des numéros plus poétiques en musique où j'arrête de parler. Puis... c'est parce que la vérité, pour moi, c'est quelque chose qui est comme un mirage. On essaie de s'en approcher, puis on ne peut jamais vraiment savoir la vérité. Donc, il y a un numéro poétique où la vérité est un peu représentée par une lumière qui s'évade de moi et qui l'évite. J'essaie de l'attraper, mais elle vole partout, elle s'évade. C'est un numéro qui est plus poétique. Il y a aussi un numéro où tout sur scène devient invisible. En fait, au début, on a l'impression que tout disparaît, mais en fait, on se rend compte que les objets sont encore là, mais ils sont invisibles. Donc, ça aussi, c'est un numéro qui est plus poétique. Puis, j'explique en fait que on peut pas, si nos yeux nous montraient vraiment la vérité, on n'aurait pas l'illusion que tout disparaît quand on éteint la lumière. Donc, ça vous donne un peu le ton du spectacle.
La vérité, c'est un thème imposé par la pandémie. On a tellement parlé de fake news, puis on a beaucoup parlé de vérité, de mensonges. Le thème est arrivé comme ça, j'imagine.
Exactement, oui. Tu sais, pendant la pandémie, j'avais déjà quelques idées de numéros, mais je n'avais pas encore trouvé le thème qui allait lier tout ça. Puis à un moment donné, j'écoute les nouvelles, puis il y avait ce qu'on peut appeler un conspirationniste là, qui parlait de la vérité. Puis je me rendais compte que pour lui, la vérité, c'était quelque chose qui était complètement à l'inverse de la majorité des gens. Mais pour lui, c'était vraiment la vérité. Puis là, ça m'a comme fait allumer que la vérité, en fait, ça dépend vraiment du point de vue. On peut avoir des points de vue complètement différents sur une seule et même chose. Puis c'est là que je me suis dit, c'est un thème qui est riche pour le monde de l'illusion, où justement, on joue avec les perceptions. On essaie de faire croire que ce qu'on voit, c'est la vérité, mais souvent, ce n'est pas le cas. Les illusionnistes sont de grands menteurs, de grands manipulateurs, bienveillants, mais quand même. Donc, le thème est arrivé comme ça, puis c'est là que l'idée, je pourrais faire un tour avec un polygraphe, est arrivée. Soudainement, ça a déclenché plusieurs autres idées. Donc, c'est arrivé comme ça.
Qu'est-ce que ça demande comme discipline de vie un jour de show? Parce qu'évidemment, ça prend une concentration au maximum. Toi, tu es un nouveau papa en plus, donc avec moins d'heures de sommeil.
Exactement.
Ouais. Est-ce que ça devient difficile, les jours de show, d'être pleinement là?
Oui, tout à fait. Le manque de sommeil, c'est bien difficile. Parce que mentalement, de faire de la grande illusion, c'est très, 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 très demandant, physiquement, mais surtout mentalement. Parce qu'il y a toujours des petits imprévus. Je suis toujours dans une salle qui est différente. L'angle de vue avec les balcons est différent. Donc, il faut que j'adapte l'angle avec lequel je tiens les accessoires. Il faut que je retienne le nom des gens avec qui montent sur scène pour les interpeller. Les éclairages ne sont pas toujours au même endroit parce que les scènes changent de format. Mais il faut que j'aille dans l'éclairage si je veux qu'on voit. Donc, il y a beaucoup de choses à retenir qui fait que ça demande une discipline, puis d'être focus. Au niveau de la discipline, souvent, les jours de show, je ne bois pas de café parce que sinon mes mains tremblent un petit peu. Je mange pas salé parce que sinon je manque de salive un peu pendant le spectacle parce que je parle beaucoup. J'essaie de dormir un maximum là, avec un petit bébé elle a 8 semaines en ce moment. C'est pas toujours évident. Donc, s'il y en a qui viennent voir mon spectacle, si vous voyez que parfois j'oublie le prénom des gens avec qui j'interagis, ça c'est le fruit du manque du sommeil. C'est la première affaire qui lâche les prénoms des gens quand je manque de sommeil. Mais je m'en sors assez bien malgré tout.
Tu as décidé pour ce show-là, tu voulais que ça soit plus familial.
Oui.
Depuis que tu es papa, en fait, on a parlé de la petite, mais tu as un garçon aussi qui est plus grand. Oui. C'est l'arrivée des enfants dans ta vie qui t'a donné envie que ce show-là devienne une possibilité de sortie familiale.
En fait. Oui. En fait, je me suis rendu compte, justement, comme papa, que les opportunités d'aller vivre des événements en famille, ou du moins des spectacles, c'est assez limité. Il existe des spectacles pour enfants où tu vas amener tes enfants voir un spectacle de passe-partout ou de je sais pas quoi, où les enfants passent un bon moment, mais nous, comme adultes, c'est plus le fait de voir nos enfants triper qui est le fun. Mais d'avoir un divertissement où vraiment tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas tant d'offres que ça. Puis je me suis dit, il y a sûrement une partie de la population qui vient à mes spectacles dans cet espoir-là de vivre un moment en famille. Puis c'est ce que ça m'a fait réaliser. Puis depuis maintenant, tu sais, c'est ça, j'intègre. Je m'assure que les numéros, parce que parfois c'est difficile pour un enfant de 6-7 ans d'apprécier tout ce qu'il y a derrière un numéro, le sous-texte qu'il peut avoir derrière et tout, mais j'essaie malgré tout qu'un enfant va rester captif par le visuel, par les petites blagues qui arrivent, par des moments plus burlesques. Et puis je suis content parce que mon fils de 5 ans a vu le spectacle, puis il est resté captif une heure et demie de temps à regarder le spectacle pour un garçon de 5 ans là, qui a besoin de bouger. Je me suis dit, ah bon, c'est...
Et qui a déjà vu de la magie, en plus.
Oui, il en a vu de proche. donc maintenant, c'est ça. Je me donne un peu ça, cette mission-là, d'offrir des spectacles que toute la famille peut apprécier.
D'ailleurs, le soir de la première médiatique, c'est Liv, la fille de Bianca Gervais, qui est montée sur la scène avec toi.
Par hasard.
Et Bianca écrit un super beau commentaire sur les réseaux sociaux. C'est une magnifique critique.
Oui.
Sa fille a capoté. Là. Et elle aussi, comme maman, elle a capoté de voir sa fille.
Je pense qu'elle disait que c'est comme si elle se sentait mieux que comme si elle avait remporté un Oscar de voir sa fille comme ça. Puis je pense que c'est un des articles qui m'a fait le plus plaisir à lire là, parmi toutes les ce qui s'est écrit sur le spectacle. Parce que c'est ça que je veux faire, dans le fond. Moi, je veux faire vivre des moments de bonheur, d'émerveillement aux gens. Donc, quand je lis qu'une petite fille comme ça est montée sur scène puis a vécu quelque chose d'inoubliable, sûrement quelque chose dont elle va se rappeler toute sa vie, puis que les parents aussi trippent, là, je me dis, cette famille-là, elle a vécu de quoi de fort dont ils vont se rappeler. C'est des souvenirs intéressables. C'est vraiment le fun. Parce que il faut le dire, il y a un numéro dans le spectacle où je fais monter un enfant, puis cet enfant-là va vivre un trip que tu ne peux pas vivre autrement qu'avec entre les mains d'un illusionniste, on va dire. Puis je suis content que ce numéro, que les enfants qui montent sur scène réagissent comme ça, vivent ça comme ça. C'est vraiment le fun. Puis voilà.
Est-ce que le défi, c'est de se mettre en danger à chaque show? Parce que ça serait facile de dire, j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble à ça, je vais l'ajuster un peu, c'est une zone de confort, je vais rester là-dedans, il n'y a pas de mise en danger, je sais que ça va marcher, mais j'imagine que le thrill, c'est d'aller ailleurs puis de se challenger.
Oui, j'ai découvert, peut-être avec mon premier spectacle, le plaisir de sortir de sa zone de confort. C'est difficile au début, c'est de l'angoisse.
Ben oui, c'est ça.
Quand tu essayes un numéro, justement, une structure de numéro, quelque chose qui n'a jamais été fait, tu dis, si ça n'a jamais été fait, il y a peut-être une raison, puis que je ne la vois pas, puis que je vais la découvrir à mes dépens. Donc, tu es toujours un peu en danger, c'est bien stressant, mais quand ça fonctionne après, c'est vraiment valorisant. Tu dis, tous ces gens-là qui applaudissent, puis qui ont des étoiles dans les yeux, c'est grâce à moi. Tu sais, ce numéro-là, il n'existait pas avant. Ça n'existait pas dans la vie, cet émerveillement-là. Puis là, ils vivent grâce à ce que l'équipe et moi, on a fait. Il y a quelque chose de vraiment valorisant. Puis quand on a goûté à ça, c'est difficile après de se dire, ah, ben, je vais opter pour la facilité. Je vais faire des numéros que je connais puis que je sais que ça marche. C'est que ça devient comme une drogue un peu de... Puis je me suis rendu compte, quand on sort de notre zone de confort, en fait, on agrandit notre zone de confort. Parce que ce qui était inconnu avant, ça devient du connu. Fait que notre zone de confort devient très, très grande. Puis on se retrouve avec un immense terrain de jeu pour créer. Et ça, c'est super stimulant.
Mais là, après, ça devient dur de sortir de la zone de confort parce qu'elle est plus grosse.
Elle est grosse. Fait qu'il a marché longtemps pour trouver le bout. Mais c'est un autre challenge, un autre défi à relever.
Est-ce que c'est très... Parce que pour les numéros, il faut que tu achètes du matériel, j'imagine, pas pour tous, mais pour certains.
Oui.
Est-ce que ça a été compliqué avec la pandémie? Parce qu'on le sait, il y a eu des délais de fabrication, des délais de livraison, il y a du manque de personnel, l'augmentation des coûts. Est-ce que tout ça, ça a compliqué le show ou ça a bien été?
Énormément. Pour le numéro final, on a beaucoup de matériel qui venait des États-Unis. Ça a été compliqué de l'avoir à temps. On l'a eu pendant le mois là où on était en théâtre. Maintenant, le gros matériel est arrivé pendant le mois. On espérait l'avoir bien avant, là, mais fait qu'il y a eu des délais. J'ai quelque chose qui vient d'Ukraine. C'est fabriqué par un Russe en Ukraine. Il m'envoyait des vidéos des tanks qui passaient en bas de chez lui pendant qu'il finissait de fabriquer la patente. Puis, il y a eu beaucoup de délais avant que ça arrive. Puis là, même encore, des fois, on a de la difficulté à avoir des pièces de rechange sur cette affaire-là. La pandémie, la guerre en Ukraine impacte directement, en fait, la création du spectacle. Mais la magie s'est opérée. On a réussi à avoir tout ce qu'on voulait, avec du retard souvent, mais on a réussi à rattraper le temps perdu.
Est-ce que c'est tous du matériel fabriqué par des magiciens ou des gens en magie, ou il y a des trucs techniques qui n'ont rien à voir avec la magie?
Non, parce que souvent, l'équipement technique,
on le trouve n'importe où.
Oui, c'est ça, il y a plusieurs fournisseurs, tu sais, fait qu'on va chercher. Mais souvent, il y a un magicien sur la planète qui est capable de fabriquer cette affaire-là, puis moi, c'est de ça, ça dont j'ai besoin. Il y a bien des affaires, il y a une personne sur la planète qui le fait, fait que ça, on n'a pas le choix, c'est cette personne-là qu'on contacte. Puis,
que tu connais comment? Par les réseaux? Il y a un Amazon de magiciens?
Pas tant, non. oui, un peu. Depuis maintenant, avec Internet, à peu près tous les magiciens ont réussi à se parler quand on veut, parce qu'il n'y a pas de réseau social de magiciens et tout, mais on se retrouve via les réseaux sociaux standards. Puis quand je connais pas les gens, je me présente, puis... Souvent, eux vont faire une recherche sur moi, ils vont voir ce que je fais, puis souvent, ils vont être intéressés à me fabriquer ce dont j'ai besoin. Fait que ça se fait comme ça. Là, ouais.
OK. On a parlé d'interconnecté, ton spectacle virtuel. À quel point ça t'a amené ailleurs? On parlait de zone de confort tout à l'heure. Là, il n'y a personne en avant de toi. Tu joues avec des écrans. Il y avait un public premium, donc il y avait des billets avec qui tu savais le nom. Il y avait un truc par courriel.
Oui.
Est-ce que ça t'a amené complètement ailleurs?
Oui, définitivement. Il a fallu que je trouve des façons différentes d'offrir la magie aux gens, parce que là, c'est par vidéoconférence, donc il a fallu que j'imagine des tours où la magie se passe dans les mains des gens, même si je ne suis pas physiquement avec eux, dans leur boîte courriel, chez eux, même si je ne suis pas là. Encore là, c'était de trouver comment... Parce qu'au début, quand je parlais de ce projet-là, les gens me disaient, oui, mais déjà, quand tu es en live, les gens disent, il y a des trucs, ils savent qu'il y a des trucs, mais là, sur un écran, ils vont dire, oui, mais c'est sur un écran, avec tout ce qui existe comme artifice qu'on peut faire à la télé, comment tu vas faire croire à la magie? Puis c'est comme, je me suis dit, comment je peux utiliser ça comme une force, en fait? Quel tour va être plus impressionnant parce que je suis pas là? Puis c'est là de sortir de sa zone de confort, c'est ça. Fait que ça a été un long processus, difficile. Encore là, il a fallu monter toute la plateforme pour pouvoir faire ce spectacle-là. Puis, mais en bout de ligne, c'est un spectacle que je fais encore là, dans deux semaines. Genre, je fais une autre présentation là, dans le privé pour ça. Donc, même passé la pandémie, il y a encore de la demande pour ce spectacle-là. On l'a fait pas loin de 150 fois devant plus de 60 000 spectateurs. Donc, c'est un grand succès auquel je m'attendais pas, auquel j'espérais, mais auquel je m'attendais pas quand même. Donc, c'est ça, je disais, quand là, sortir de sa zone de confort, des fois, tu découvres des choses. Tu sais, moi, ça me fait allumer. J'ai le goût de faire d'autres projets où je sors, où j'offre de la magie de façon différente. Je travaille présentement sur un projet où j'utilise la réalité virtuelle, entre autres. Puis, c'est ça, ça m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce que je peux faire d'autre qui n'est pas conventionnel avec la magie, finalement.
Est-ce qu'un autre projet, comme interconnecté ou inspiré de, pourrait exister? Parce que, au niveau logistique, c'est 20 millions de fois plus simple. Il n'y a pas de déplacement. Mm-hmm. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de logistique, d'équipement, de techniciens, c'est pas là, là.
Non, c'est ça. Ça demande, une fois que c'est installé, ça demande beaucoup moins de ressources. Donc ça, c'est merveilleux. Mais d'ailleurs, je me rappelle, pendant la pandémie, souvent, je faisais à 2 heures de l'après-midi, je faisais une représentation pour l'Europe, parce que pour eux, c'était le soir, c'était 8 heures. Après ça, je retournais souper chez nous, puis je revenais faire une représentation pour le Québec. Fait que des représentations sur
5 minutes après, t'es chez vous.
Exactement. Puis je peux coucher mes enfants, puis ça, c'était merveilleux. Donc oui, éventuellement, je pense, j'aimerais dans le futur utiliser encore le virtuel dans une formule probablement différente, mais il y a quelque chose là qui me permet de faire des tours que je pourrais pas faire sur scène ou autrement. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de fun aussi pour le public de pouvoir assister à ça en virtuel. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se déplacer ou qui peuvent pas parce qu'ils ont 5 enfants, puis ils peuvent pas. Mais là, de se connecter, puis de pouvoir vivre le spectacle avec les enfants à côté qui peuvent partir s'ils veulent ou pas, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Fait qu'éventuellement, je pense revenir au virtuel là, dans une formule différente. Ouais.
Le projet de réalité virtuelle sur lequel tu travailles, ce serait donc pour la scène, carrément?
Je peux pas en parler encore beaucoup, mais non, ce serait pas pour la scène, ce serait quelque chose vraiment complètement différent. Ce serait, on pourrait pas, d'ailleurs, c'est toujours ça le problème, on rentre pas dans une case pour les demandes de subventions puis tout. Ce serait pas sur scène, c'est pas en ligne, c'est autre chose.
Mais évidemment, cette nouveauté-là technologique, ça fait déjà quelques années, mais quand même, oui. Cette nouveauté technologique-là, ça amène des possibilités que tu n'avais pas avant.
Oui, puis encore là, c'est un autre défi, parce que quand tu mets un casque de réalité virtuelle, ben encore là, tout est possible. Je veux dire, tu peux, tout peut léviter, tout peut se transformer, puis parce que quand j'ai commencé à rencontrer des gens dans ce milieu-là, ils me disaient...
Oui, il faut que ça reste la magie quand même.
Oui, mais ils me disent, comment tu vas impressionner? Parce qu'il n'y a rien qui est impressionnant en niveau magie, en réalité virtuelle, on peut tout faire. Puis c'est là que je me dis, comment j'utilise ça comme une force? Puis... là, la piste sur laquelle je suis, c'est imaginer, par exemple, que vous pensez à quelque chose sans le nommer, puis que là, virtuellement, ça apparaît. T'sais, oui, tu sais que l'apparition, c'est virtuel, mais comment ça se fait qu'on
a su ce que tu as pensé?
Oui, c'est là que la magie se produit. Fait que c'est là-dessus que je travaille.
Ça rejoint un peu d'autres tours de d'autres façons où on devine, par exemple, une date, une carte, un chiffre, puis la prédiction est cachée.
Ce sont des tours, habituellement des tours de mentaliste, où le mentaliste justement va deviner ce à quoi vous pensez, puis va vous le dire. Mais c'est là, au lieu de vous le dire, mais on le fait apparaître virtuellement. Il y a quelque chose de plus spectaculaire, je trouve, là-dedans.
C'est un privilège que les gens te choisissent dans tout ce qui existe de spectacle, puis qu'ils décident, on le sait, là, le coût de la vie a augmenté énormément, que les gens décident d'aller voir ton show parmi tout ce qu'il y a.
Mm-hmm. Ben oui, c'est sûr, je me sens choyé que les gens me choisissent parmi toute l'offre qui existe maintenant, surtout avec on le sait, avec tout ce qui est disponible, avec toutes les plateformes numériques. Oui, je me sens vraiment privilégié, puis je prends pas ça pour acquis. À chaque nouveau projet, je me croise les doigts que les gens soient au rendez-vous, puis je sais que ça pourrait arriver que du jour au lendemain, que les gens aient même plus la magie ou s'en désintéressent, ou, tu sais, je me dis, je veux pas croire ça, mais en même temps, je me dis, ça pourrait arriver. Je ne veux pas prendre pour acquis que les gens vont toujours être au rendez-vous. Puis moi, j'essaie de me dépasser à chaque fois pour toujours donner une bonne raison aux gens de venir me voir, finalement.
Est-ce que le soir du premier show, je ne parle pas de la première nécessairement, mais le premier show, est-ce qu'il y a un track? Parce que tu l'as testé, évidemment, devant une salle à peu près vide. Là, tu le testes avec
si
du monde.
Il y a un track, tu demandes. Écoute, je suis toute la soirée de mon corps. Mes techniciens aussi, tout le monde, on est tout trempé. Puis on.
Parce qu'on est comme sur le bord du précipice tout le temps. Il faut que ça marche.
Oui, oui. Parce que les conséquences, si ça marche pas, sont grandes. Là, c'est mes techs qui vont perdre leur job. C'est tout l'argent qu'on va avoir jeté à la poubelle. C'est la déception du public. Si ça marche pas, c'est comme si tu remets en jeu ta carrière à chaque fois. Je trouve ça vraiment difficile. Mais la valorisation, quand ça marche, le sentiment est aussi grand que la peur, le trac qu'on a. Fait que ça marche. C'est comme les deux côtés de la médaille, ouais. De vouloir innover. Mais oh oui, le trac est définitivement là. Même après toutes ces années, tu sais, où c'est sûr, je prends confiance, mais la peur que ça marche pas est toujours là. Ouais.
Est-ce que c'est arrivé au début, par exemple, une erreur dans un numéro?
Oui. Les premiers spectacles, il y a des petites erreurs. Parfois, les gens le remarquent, parfois pas. Parce que les gens ne savent pas comment le numéro...
Tout enchaîne vite, ouais, oui, non, c'est ça, on ne sait pas comment c'est fini.
Des fois, on ne peut pas faire la finale d'un numéro, fait que je la saute, mais les gens ne savent pas ça, que ça devait finir au
début. Ouais,
fait qu'ils se disent, ah, ce numéro-là, me semble, c'était moins bon, mais en tout cas, tu sais, les gens n'ont pas toujours connaissance, mais oui, c'est pour ça qu'on fait du rodage. On n'en fait pas beaucoup, là, on fait une dizaine de shows de rodage avant d'arriver à la première, puis là, on ajuste des petites affaires, mais ben, même encore aujourd'hui, il arrive des imprévus, puis on a des plans B puis des plans C quand ça arrive. Quasiment à tous les spectacles, on embarque sur un plan B puis un plan C qui n'est pas un plan. Ça donne un bon spectacle quand même, mais c'était pas le plan initial. Ça arrive quasiment. C'est un spectacle qui est très interactif avec le public. Donc les gens, quand ils montent sur scène, j'ai pas le contrôle sur ce qu'ils font. Puis des fois, ils font des affaires que j'avais vraiment pas prévues. Faut que je deal avec ça.
Mais ça, on parlait tantôt de mise en danger, ça aussi.
Ben oui.
Là-dessus, tu n'as aucun contrôle.
J'ai aucun contrôle. Quand on appelle la personne en FaceTime, là, cette personne-là est chez elle. Elle n'a pas acheté de billets pour un spectacle. Là. On peut tomber sur un monsieur en bédaine. On peut tomber sur... Mais c'est le fun aussi, parce que le public le sait que je suis en danger. Fait que j'ai l'attention de tout le monde à ce moment-là.
Je veux qu'on parle des Inventifs, est une émission que tu fais sur UNITV,
oui.
Où tu mets à l'avant-plan des jeunes scientifiques, des jeunes inventeurs même. Comment c'est arrivé? Évidemment, tu es porte-parole de l'Expo Science depuis des années. J'imagine que c'est arrivé par là, ce projet-là.
Oui, c'est comme ça que ça m'a ouvert la porte à animer ce show-là. C'est une petite boîte de production à Québec qui s'appelle Taiga qui voulait faire un spectacle où ils mettaient en lumière justement des jeunes inventifs, donc des jeunes de 10, 12, 14 ans qui ont inventé des affaires. Puis on crée un concept d'émission où un animateur vient, rencontre les jeunes, passe une petite entrevue, le fun avec eux, où on voit leur invention. Puis après, on teste leur invention, souvent de façon loufoque. Puis ils ont pensé à moi comme animateur, justement, parce que j'avais rencontré beaucoup de ces jeunes-là en tant que porte-parole des Expos Sciences. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé ce projet-là. C'était hors de ma zone de confort encore là, parce que c'est une première pour moi d'animer à la télé sans faire de magie, vraiment juste comme une job d'animation. Puis finalement, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Ces jeunes-là, je les trouve tellement inspirants. Ils inventent des affaires, là. C'est fou, ils ont 12 ans, puis ils inventent, ils ont fabriqué une imprimante 3D ou un robot en Lego qui bouge, puis qui fait des... Ils sont vraiment impressionnants, parce qu'on va voir aussi la crème de ces jeunes-là. On va voir les jeunes qui ont gagné des prix avec leur invention. Donc, ça donne... C'est le fun, parce que comme adulte, quand tu regardes ça donne vraiment foi en
la jeunesse.
En la jeunesse,
oh, ben oui.
Au futur. On se dit, bon, tu sais, c'est tous des jeunes qui vont réussir, qui vont devenir chefs d'entreprise ou des grands chercheurs. Là, donc, c'est merveilleux.
Mais toi qui tripais sur les sciences plus jeune, aurais-tu pu être comme eux?
Ah, ben oui, tout à fait. Oui, oui, j'aurais aimé ça. Oui, oui. C'est clair. Puis, en fait, moi, pour la magie, j'ai souvent bidouillé beaucoup d'affaires chez nous. Puis c'est ce qu'ils font, eux autres aussi. Ils font pas pour créer des tours de magie, mais pour créer d'autres choses. Des fois, pour régler même essayer de régler des problèmes de société. Fait que c'est ça qui est beau à voir. Mais je connecte automatiquement avec ces jeunes-là, là, parce qu'on a en commun l'intérêt pour la science, le désir de l'ingéniosité, puis de trouver la twist que tout le monde n'a pas pensé qu'on peut faire pour régler un problème. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai même gardé contact avec certains de ces jeunes-là avec qui je parle des fois pour... Je leur demande, c'était quoi le modèle d'imprimante 3D que tu as pris d'ailleurs pour faire cette pièce-là? Puis parce que moi, je m'en sers parfois pour des tours de magie. Après.
Est-ce que parce qu'évidemment, il y a des inventions là-dedans qui sont pour le bien de la communauté. Ouais. Il y a eu entre autres des ustensiles pour les gens qui sont oui. paralysés. Il y a eu une pelle à neige pour contrer oui. les crises cardiaques.
Oui.
C'est comment ça? Parce qu'ils ont, tu l'as dit, ils ont 12 ans, puis oui. C'est pas des problématiques de santé qu'ils ont nécessairement.
Non, c'est fou, c'est des jeunes qui se tiennent informés, qui regardent un peu les nouvelles, puis la pelle, par exemple, c'est une pelle qui détecte si tu es sur le bord de faire une crise cardiaque, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation des gens qui faisaient une crise cardiaque après les grosses bordées de neige, parce que les gens pellent. Puis des fois, c'est, quand tu as un problème, tu avais déjà une condition, le fait de pelleter, ben là, ça peut générer une crise cardiaque. Donc, ils ont créé une pelle qui détecte le pouls avec la main qui est sur le manche, ça détecte le pouls. Puis si le pouls va au-delà de tel, ben là, ça sonne, puis là, ça te fait signe qu'il faut que tu arrêtes de pelleter. Donc, c'est impressionnant que des jeunes aient ce raisonnement-là de penser à ces problèmes de société-là. Tu sais, il y en a d'autres qui créent de... Il essaie de créer de l'asphalte qui est plus résistante ou des choses comme ça. C'est vraiment des jeunes allumés. C'est pour ça que je dis que ça donne foi en la jeunesse, là, vraiment.
Et c'est aussi de mettre à l'avant-plan la science à la télé, ce qu'on fait pas tant. Il y a Génial, évidemment, mais qu'on fait pas tant que ça. Là.
Non, avant Génial, il y avait pas grand-chose. Donc, c'est vraiment le fun de voir que ces jeunes-là aient une place et soient valorisés. Parce que avant, quand tu étais un jeune et que tu trippais sur la science, tu n'avais pas de modèle. Les jeunes, ils ont... pas idolâtres, mais ils ont en admiration les grands sportifs ou les grands chanteurs. Mais il n'y avait pas de modèle scientifique. Là, maintenant, ces jeunes-là, avec une émission comme Les Inventifs, ben, ils voient des jeunes qui ont leur âge, qui gagnent des prix, qui sont valorisés, qui créent des affaires, puis ils passent à la télé. Donc, ça leur donne... Ils peuvent se dire, ben moi aussi, je suis capable de faire ça, j'ai telle aptitude, donc moi aussi, je peux être comme ça. Donc, ça donne un modèle, puis je trouve que c'est important, surtout pour des jeunes, les modèles. Fait que c'est que je trouve que ça fait beaucoup de bien à la société, une émission comme ça, j'ai l'impression.
Qu'est-ce qui était arrivé avant pour toi, la science ou la magie?
La magie est arrivée en... en fait, je dirais qu'avant tout ça, c'est la curiosité qui m'a habité. Quand on est curieux, souvent les grands scientifiques ont une curiosité de savoir comment les choses fonctionnent. C'est ce qui les mène vers la science. C'est ce qui m'a amené vers la science aussi. Mais à 6 ans, la première fois que j'ai vu un tour de magie, j'ai tout de suite voulu comprendre c'était quoi qu'il y avait derrière, comment c'est possible, comment on peut faire léviter quelque chose, comment on peut faire disparaître quelque chose. Je voulais savoir les rouages derrière. Donc, c'est la curiosité qui m'a mené vers là. Puis plus tard, quand j'ai commencé à me demander, oui, mais pourquoi le soleil bouge dans le ciel, pourquoi le ciel est bleu, ben c'est la science qui est venue répondre qui m'a donné les réponses les plus satisfaisantes, en tout cas. Fait que c'est la curiosité qui m'a mené vers les deux. Ça m'a mené d'abord vers la magie, parce que quand on est enfant, c'est plus spectaculaire, la magie. Mais rapidement, là, à l'âge de 10-11 ans, je me rappelle mon premier cours de physique où j'ai été attentif au cours de physique comme si c'était un spectacle de magie, littéralement. Fait que ça s'est passé comme ça.
Est-ce que tu te sers encore de la science dans tes tours de magie?
Oui, beaucoup, au quotidien. En fait, au quotidien, dans la phase de création des numéros, la science est super inspirante. C'est la magie des temps modernes. T'sais. La grande majorité des gens ne savent pas comment fonctionne leur téléphone portable, même s'ils l'utilisent. Puis dans la tête des gens, c'est un peu de la magie. Ça, on nous dit c'est de la science, c'est de la technologie. Un peu comme avant, on se disait comment ça se fait qu'il pleut? Ah ben c'est la déesse de telle affaire qui pleure. T'sais. Puis ça fait que la technologie, la science est venue remplacer un peu. La science est devenue cette espèce d'entité qu'on connaît. Qu'on comprend pas trop pour la majorité des gens, mais qui explique des affaires fantastiques comme tout ce qu'on fait avec les technologies. Donc, voilà. Ouais.
Depuis quelques années, il y a la France pour toi.
Oui.
Évidemment, il y a eu beaucoup de plateaux télé aussi en France. Est-ce que c'est ça qui a provoqué la suite pour toi? Parce qu'on dit beaucoup pour les chanteurs, entre autres, que ça passe par la télé. Il faut aller à la télé, faire une apparition qui marque. Puis après ça, les shows s'installent. Est-ce que ça a été ça pour toi?
Oui, même chose. La télé, ça reste encore le média qui rejoint beaucoup de gens. Tu sais, c'est des millions de surtout en France, là. Tu sais, ils sont 70 millions. Fait que les codes d'écoute des bonnes émissions, c'est les codes d'écoute, tu sais, que nous, on va avoir pour le bye-bye, mettons, ici. Mais eux, ils ont ça à chaque semaine. Tu sais. Donc, c'est sûr que ça passe par la télé. Au début, quand on a commencé à vouloir m'installer en France, on n'arrivait pas à se faire inviter sur la télé. C'est un milieu qui est... Encore là, ils sont 70 millions, donc il y a beaucoup d'artistes qui veulent entrer à la télé, donc c'est difficile pour un étranger de se tailler une place là-dedans. Donc, je me rappelle, à l'origine, on était passé par les réseaux sociaux. J'avais réussi à approcher certaines vedettes françaises à qui j'ai fait des tours de magie. On a filmé ça, puis on a mis ça sur YouTube. Puis les vidéos en sont parties virales. Puis là, les stations de télé ou les émissions ont vu ça, puis ils ont dit « Ah, ils m'ont trouvé intéressant ». C'est drôle parce qu'on a même vendu ces clips vidéo-là qu'on avait faits pour le web. On les a vendus aux émissions de télé qu'ils ont diffusées à la télé après. Puis c'est comme ça qu'on est rentré à télé puis que tranquillement, ma notoriété s'est construite là-bas.
récemment, ça devait faire quelque temps qu'il était tourné, ce numéro-là, mais j'ai vu sur la web un numéro à trois magiciens que tu as fait en France. Est-ce que tu aimes ça? Partager la scène avec d'autres magiciens, puis de partager vos expertises, vos connaissances?
J'adore ça. Parce que c'est un métier qui est très seul habituellement. Ouais.
Il y en a peu, ben, vous voyez pas tant que ça.
C'est ça. Mais je trouve ça le fun, d'une part, de ne pas avoir toute la pression sur mes épaules, de partager ça à trois. Déjà, ça enlève un poids. C'est le fun parce que ça permet de faire des tours que je peux pas faire tout seul. T'sais, quand on est trois, ben il peut y avoir un magicien qui commence quelque chose à un bord de la scène. Moi, je termine ce qu'il a fait l'autre bord. Puis il y a une dynamique qui est différente, qui est plus rythmée. Fait que c'est super stimulant. J'adore ça. Moi, je ferais des tours à six magiciens, à trois magiciens tout le temps si je pouvais. Okay.
Et en même temps, sans dire que c'est plus facile, mais l'œil du spectateur est toujours occupé quelque part parce qu'il y a plus qu'un magicien. Ouais, donc, pendant qu'un capte l'attention, on parlait d'éclairage tantôt, là, c'est la job des magiciens qui remplace l'éclairage. Il y en a un qui capte l'attention pendant que les deux autres font autre chose.
Écoute, un magicien, habituellement, on a deux mains. Là, si on est trois magiciens, on a six mains. Écoute, on peut en faire du stock. Décuple les possibilités. Fait que c'est ça qui est le fun.
Là, c'est la tournée au Québec.
Oui.
Et il y a la tournée en France en 2023 aussi.
Oui. Ça commence en septembre 2023. On va être en résidence au Casino de Paris pendant une bonne semaine, puis ensuite en tournée partout à travers la France.
Est-ce que c'est différent maintenant d'y aller? Tu es un papa deux fois. Est-ce que c'est plus compliqué d'y aller maintenant?
Ben oui, c'est sûr que tu as de faire 6 heures d'avion avec deux enfants.
Parce qu'ils vont te suivre, c'est ça?
Oui, parce que, écoute, moi je suis parti en tournée là-bas deux mois et demi à peu près, au minimum. Fait que me séparer de mes enfants, c'est des jeunes enfants. Là, quand je vais revenir, ils vont avoir tellement changé que je ne les reconnaîtrai plus. Puis
eux autres non plus.
Puis eux autres non plus. C'est qui le monsieur qui rentre dans la maison? Non, mais tu sais, c'est une période tellement importante dans la vie. Je veux pas manquer ce bout-là. Fait qu'ils me suivent. En tournée, c'est quand même... C'est tout un défi parce qu'on est en tour bus qui appelle. Donc, c'est un autobus de tournée dans lequel on a un lit, on a une petite cuisinette. Puis on a ça parce que les shows sont à chaque jour, si on veut, mais dans des villes différentes. Donc, nous, on termine un spectacle tard le soir. Il est 11h, minuit. Puis on prend la route, on dort sur la route pour arriver à temps le matin dans l'autre ville pour monter le spectacle, pour être prêt pour l'autre soir. Fait que c'est une vie pendant 2 mois où tu es beaucoup sur la route, tu vois beaucoup de paysages, tu traverses le pays 50 fois, ben, peut-être pas 50 fois, mais en tout cas pas mal de fois, parce que tu peux avoir un show dans le nord de la France, le lendemain dans le sud, le lendemain tu reviens dans le nord. Puis c'est ça, fait que de traîner les enfants, c'est en fait ce qui est dur... C'est le fun parce qu'eux, ils voient plein d'affaires.
Oui, puis c'est une expérience qu'on ne peut jamais offrir à nos enfants.
Non, ils courent dans la salle de spectacle vide, ils se promènent sur les roadcase, c'est le fun. Ils dorment assez bien dans le camion parce que, tu sais, avec la vibration, habituellement, les jeunes enfants, ils dorment bien. Là. Fait que les nuits sont encore mieux, généralement. Mais c'est quand même rough pour moi d'être papa, tu sais, le jour, puis le soir, monter sur scène. Ça fait des grosses journées. Mais c'est le prix à payer pour vivre tout ça en famille puis laisser des souvenirs intéressants.
On parlait tout à l'heure du fait que selon la salle, il y a tout un côté technique. Est-ce qu'un jour, je t'avais demandé hors d'onde tantôt, mais est-ce qu'un jour tu pourrais faire, en musique, il y a des shows acoustiques là, pour aller dans les plus petites salles. Est-ce que tu pourrais faire un show de magie différent pour faire un tour du Québec plus grand? Parce que là, tu n'as pas le choix d'aller dans certaines salles à cause des dispositions techniques.
Oui, bien, c'est parce que, tu sais, en magie, j'ai comme eu... À mesure que ma carrière a évolué, tu sais, j'ai toujours voulu faire plus spectaculaire puis plus gros, ce qui a fait qu'on rentre dans de moins en moins de salles. Mais je me rends compte aussi qu'une des choses qui est le plus appréciée dans ce que je fais, c'est la magie de proximité. Fait que c'est sûr que je cogite sur un concept de spectacle où vraiment ça serait devant un public réduit, mais que les spectateurs vraiment vivent une expérience personnalisée, c'est-à-dire, tu sais, que la magie se produise très proche d'eux, dans leurs mains, que quelque chose réapparaisse dans leur poche, ou que je devine le nom de quelqu'un d'important pour eux, puis des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est une autre formule, il faut que je trouve comment proposer ça. Mais il y a quelque chose là, encore là, ça va être une autre occasion de sortir de ma zone de confort et de proposer quelque chose qui est en dehors de la boîte. Là.
L'année prochaine, c'est les 10 ans du premier show.
Oui, oui.
2013.
Ben oui, écoute, tu m'en fais prendre connaissance, là, oui, OK.
Ça te fait quoi? Évidemment, il y avait la télé avant. Mais 10 ans de scène, ouais, avec le succès qui augmente à chaque fois, ça te fait quoi de voir qu'il y a déjà 10 ans de passe? Ben, presque 10 ans de passe.
Ben, je me dis, tabarnouche, ça a donc bien passé vite. J'ai pas vu le temps passer. Je vais t'avouer, 10 ans déjà, Il y a une part de moi qui dit, mon Dieu, il faut que j'active, là, ça passe tellement vite, si je veux faire tous les projets que je veux faire à coup de 10 ans comme ça, je me rapproche de la retraite. Mais quand on travaille sur quelque chose qu'on aime avec passion, on voit pas le temps passer, c'est fou. Moi, tu me dis, ça fait 10 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Le temps file, c'est ça va être un bon thème, ça, pour un spectacle, le temps. C'est quelque chose qui file puis sur lequel on n'a aucun contrôle. Mais bon, j'aimerais ralentir le temps. Si j'avais des vrais pouvoirs magiques, là, soit ralentir le temps ou soit que j'ai plus besoin de dormir. Fait que pendant que tout le monde dort, moi, je continue de travailler puis je fais d'autres projets. Ça serait merveilleux.
Bien, on parlait tout à l'heure de la fatigue qu'il ne faut pas accumuler pour présenter un show, de monter des projets en même temps que tu es en tournée. Ah. Il y a ce danger-là aussi, c'est d'être fatigué de toujours travailler, puis après ça, de livrer sur scène?
Ah oui, c'est sûr, mais on n'a pas le choix. Tu sais, je le disais, un spectacle sur scène, ça me prend 2 ans à monter, fait que je peux pas arrêter, mettons, un spectacle, puis là, pendant 2 ans, juste
rien faire
avant de remonter. Fait qu'il faut que je commence la conception d'un prochain spectacle pendant que je fais la tournée du précédent. Fait que c'est toujours comme ça. Puis il y a d'autres projets à travers ça. Là, on dit, je tourne les inventifs, je tourne de la télé, je suis porte-parole. Fait qu'il y a plein. Ça fait des horaires chargés. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que le temps passe vite. J'ai pas le temps de m'ennuyer, mais. Ben écoute, c'est la vie que j'ai choisie, c'est ça. Oui, il y a un danger, pour répondre à ta question. J'y ai goûté d'ailleurs en 2000. C'était quoi? C'était en 2012, ça. Puis je suis tombé malade, 2011, je sais plus. J'essaie de me ménager. Écoute. Mais c'est la passion, c'est à double tranchant. Ça, on se donne.
On ne compte pas nos heures, mais il y a un prépayé.
Voilà. Voilà.
Luc, je vais inviter les gens à aller te voir en tournée. Ton spectacle Vérité, les dates sont sur ton site Internet. Ce soir, il y a Joliette, mais il y a plein d'autres spectacles. Tu reviens, entre autres, à la Place des Arts en février prochain. Il y a des spectacles un peu partout au Québec. Merci d'avoir été là.
C'était un réel plaisir, Luc. Vraiment
Merci
un
beaucoup.
Plaisir.